Et c'est le retour du Club des Têtes au Carré en ce début de saison avec, comme chaque fin de semaine, un florilège de l'actualité scientifique. Au menu aujourd'hui, la journaliste américaine Elizabeth Colbert, prix Pulitzer 2015 pour son essai sur la disparition des espèces. Une piste pour un vaccin universel contre la grippe. Le calvaire des poussins mâles et puis des dictons très inspirés, vous le verrez, par la météo et les animaux. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, un Français qui a été choisi par la NASA et qui démarre aujourd'hui une mission de simulation de vie sur Mars.
Oui Mathieu, il s'appelle Cyprien Verseux, il est astrobiologiste et il entame aujourd'hui avec 5 partenaires une expérience martienne de 365 jours d'isolement. On l'écoute et on en parle dans un instant avec vos questions pour la une sur Twitter, hashtag l'attaque.
Voilà pour le sommaire de ce Club des Têtes au Carré, réalisé par Stéphanie Texier et qui a été préparé par François Mercier et Margot Dullard.
La tête au carré, le Club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les invités du club avec moi en studio, Brigitte Gauthier de l'association L214 et l'entomologiste François Lasserre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et puis au téléphone, le virologiste Bruno Lina. Bonjour à vous.
Bonjour.
Brigitte Gauthier, votre association L214 éthique et animaux a révélé au public le calvaire des poussins mâles dans les couvoirs, des poussins broyés vivants ou étouffés dans des sacs poubelles. Et vous aviez rendez-vous hier au ministère de l'Agriculture pour remettre des pétitions demandant l'arrêt de ces pratiques. Est-ce que les discussions ont été positives ?
Elles ont été discussions. Voilà, on peut pas dire que la France est en avance au niveau des connaissances scientifiques, de la recherche. Ça a été reconnu par nos interlocuteurs. Mmh. Voilà, le problème est arrivé sur la table. Maintenant, il va falloir le gérer. Mais enfin, on en est vraiment qu'au premier pas.
Mmh. Mais vous avez quand même sensibilisé l'opinion, hein.
Alors, l'opinion est sensibilisée. On a vu aussi que les parlementaires l'étaient. Donc, oui, voilà, on avance dans le bon sens.
Bruno Lina, vous êtes peut-être sur le point de nous dire que on a trouvé un vaccin universel pour la grippe, c'est ça ?
Alors, on a trouvé une piste qui permet de penser qu'on a la possibilité d'aller jusqu'au développement à terme d'un vaccin qui peut être présenté comme universel parce que protégeant contre tous les virus de grippe A, ouais, ou en tout cas une grande partie d'entre eux. Voilà, il y a un certain nombre d'étapes qu'il était nécessaire de franchir avant de pouvoir dire qu'on peut éventuellement imaginer que ce vaccin existera un jour. Mmh. On est encore dans des phases préliminaires de développement de ce vaccin.
Ouais. Et sur la souris, hein, donc beaucoup de précautions dans ce qu'on va dire tout à l'heure.
Absolument, absolument. Les hommes ne sont pas des souris et on n'a malheureusement pas la possibilité de transposer les beaux résultats qu'on a chez la souris à ce qu'on pourrait observer chez l'homme.
Il y a Brigitte Gauthier qui fait la grimace, évidemment, hein, à l'évocation de ses essais sur la souris. François Lasserre, araignée du soir, espoir, vous publiez un livre sur les dictons animaliers incertains. Les animaux ont beaucoup inspiré les expressions météorologiques, visiblement. Vous avez rencontré pour ce travail les plus grands experts internationaux du dicton. C'est ça?
Alors j'ai plutôt rencontré les spécialistes des animaux, justement, parce que les spécialistes des dictons ont pratiquement tout dit. En revanche, sur la véracité naturaliste de ces dictons, je suis allé voir les spécialistes sur le terrain.
Et c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs, hein, voir s'il y a une base scientifique quand même.
Bien sûr, oui.
À ces expressions.
Alors, il y en a pas beaucoup et on va en parler justement. C'est pour ça qu'ils sont, ils restent incertains.
Mais vous avez quand même réussi à faire un livre autour du sujet. Et puis, je vous proposerai d'entendre l'entretien que nous avons enregistré il y a quelques jours avec la journaliste américaine Elizabeth Colbert, qui a reçu cette année le prix Pulitzer de l'essai pour son livre La sixième extinction, qui raconte pourquoi les espèces disparaissent à cause de l'homme. Voilà donc pour le premier tour d'horizon de notre club. Ils vont passer un an, presque, sur Mars. La NASA lance aujourd'hui sa mission ICES. C'est comme ça qu'on le prononce, Axel ?
À peu près, ça m'a l'air bien comme ça.
Bon, et qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Henarejos ?
Ça veut dire qu'il s'enferme dans un module sur une montagne à Hawaï.
C'est pas la réponse à ma question.
Ça veut dire Hawaï Space Exploration Analog and Simulation.
Voilà,
oui, c'est ce que je vous disais.
Ah oui, voilà. Bien sûr. 365 jours dans un dôme blanc de 11 mètres de diamètre sur les flancs du volcan Mauna Loa à Hawaï. Trois hommes, dont un Français donc, et trois femmes, à la fois cobayes et expérimentateurs, qui vont suivre donc cette expérience, isolement, promiscuité, confinement. Philippe Henarejos, donc rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, une nouvelle simulation. Alors, c'est pas la première hein, ces dernières années pour la NASA. Elle est un petit peu particulière, celle-là. Quel est le véritable but de ces missions, quand on sait qu'aucun programme martien n'est en vue pour l'instant ?
Alors le but, c'est sans doute de savoir si un voyage humain vers Mars est possible. Alors il y a déjà eu d'autres missions. Par exemple, on pense à 2011 avec cette mission en Russie qui s'appelait Mars 500. Où là, le confinement, c'était plutôt d'étudier le voyage aller-retour avec on reste un mois sur Mars. Donc ça faisait quand même près de 2 ans d'isolement. Donc ça avait été fait. Là, on est dans une mission de 365 jours. Ouais. Mais comme si le voyage avait pas eu lieu, le voyage aller n'a pas eu lieu, le voyage retour n'a pas lieu, c'est simplement 365 jours sur place, sur Mars, c'est-à-dire que font les astronautes une fois qu'ils sont posés sur Mars avec leur habitat, à quel rythme ils sortent explorer la planète, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent.
Et donc parmi les scientifiques, Axel, un Français qui d'ici allez, une quinzaine d'heures, c'est ça, va rentrer dans le dôme.
Ils vont tous rentrer dans à peu près 15 heures et lui, il s'appelle Cyprien Verseux, il est astrobiologiste et Sophie Bécherel, la rédaction de France Inter, l'a joint hier soir. Avant toute chose, il sait que l'expérience va être psychologique.
Le premier but, c'est de voir si un équipage isolé, dans des conditions particulières, peut rester performant et sain d'esprit pendant une durée prolongée. En gros, c'est pour voir si les astronautes deviendraient fous pendant une mission sur Mars. Donc c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est de tester des technologies qui seront utilisées dans un avant-poste martien.
Jusqu'à quel détail la NASA est-elle allée pour recréer les conditions réelles d'une station martienne ?
Elle a choisi un site qui ressemble beaucoup à Mars, donc on est sur un volcan, le volcan Mauna Loa à Hawaï. Quand on sort sur le seuil de la porte, on a vraiment l'impression d'être dans un paysage que Curiosity aurait pris en photo. Les ressources sont les mêmes, on mange que de la nourriture déshydratée. On a droit à quelques minutes de douche par semaine. On ne sort pas à l'extérieur sans combinaison spatiale. L'architecture de l'habitat est celle que la NASA prévoit a priori pour une mission sur Mars. En gros, la vie sur place sera presque la même. La seule grosse différence, c'est la gravité terrestre. Sur Mars, il y a une gravité qui est à peu près 38% de celle de la Terre. On peut pas actuellement reproduire expérimentalement sur Terre.
Bon, ça fait pas franchement rêver hein, pour l'instant, le coup de la douche, franchement. Pourquoi un an, justement? Il y a des raisons scientifiques à ce temps d'enfermement?
Il y a une raison qui est très simple, qui est imposée par la mécanique céleste. La Terre tourne autour du Soleil, Mars tourne aussi autour du Soleil, un peu plus loin. Et les deux planètes ne sont proches l'une de l'autre qu'une fois tous les 2 ans. Donc, on ne peut pas faire comme dans Star Wars ce qu'on veut, c'est-à-dire on prend un vaisseau, on va en ligne droite, on revient.
Il faut être patient.
Donc, on est obligé, de toute façon, de faire un voyage avec les moyens actuels, avec les technologies actuelles, qui durera 6 mois pour aller et 6 mois pour retour, avec 2 options une fois sur place. Soit on reste 30 jours et on revient tout de suite, avant que les deux planètes s'éloignent. Soit on reste 1 an, d'où les 365 jours, et on revient, on refait nos 6 mois de retour.
Voilà. Excellent.
Et Philippe, vous parliez de l'expérience Mars 500 qu'avaient mené les Russes, c'était 2 ans. Qu'est-ce que ça avait donné psychologiquement sur les membres?
Eh bien, j'aimerais bien le savoir en détail. C'est-à-dire que...
on les a pas retrouvés.
Non.
Ils ont disparu.
La mission a réussi dans le sens où je crois qu'ils étaient 8, les 8 passagers de ce voyage immobile sont sortis de là au bout de presque 2 ans sans s'entretuer. Donc ils ont réussi la mission, ils ont fait le voyage aller, ils ont planté leur drapeau virtuel sur Mars et ils sont revenus. Je sais qu'il y a des études qui étaient menées par notamment l'Agence spatiale européenne qui devaient être publiées en 2012. J'ai vu quelques commentaires, mais je n'ai pas vu les études et je vous promets de chercher parce que je crois savoir qu'il y a quand même eu quelques petit problème au niveau psychologie. On a parlé, je crois, d'une dépression de l'un des membres de l'équipage, quand même. Enfin, il faut s'y attendre. Dans un voyage aussi difficile que ça, ça ne va pas se passer, malgré toutes les précautions et tous les tests qu'on pourra faire avant. Mais... le jour où, éventuellement, un tel voyage se ferait, ce sera quand même difficile, je le crois. Mais ça montre quand même que c'est possible.
C'était que des hommes cette fois-là,
c'est mix. C'est ça, c'est mix, oui. Donc c'est peut-être un avantage, on verra. La NASA a choisi donc effectivement 6 scientifiques pour tester toutes sortes d'innovations, Axel. Hein.
Oui, des innovations dans tous les domaines, la médecine, la biologie. Et pour le français, hein, Cyprien Verseux, c'est la biologie. Il emporte avec lui des colonies de bactéries et il y place beaucoup d'espoir.
Alors je travaille sur comment produire des ressources à partir de ce qui est présent sur Mars. Donc j'ai des micro-organismes qui sont capables de pousser à partir de matériaux qui peuvent être trouvés sur Mars. Donc je les fais pousser à partir de ces ressources-là. Et ensuite, je les utilise pour produire d'autres ressources pour d'autres organismes, pour recréer un écosystème qui indirectement est basé sur des ressources martiennes et qui peut produire des ressources pour les astronautes. Donc de l'oxygène, de la nourriture, des médicaments, etc.
Quand vous dites des ressources martiennes, vous parlez de quoi concrètement et qu'est-ce qu'on peut imaginer? Vous n'allez pas faire pousser de la salade sur le sol martien?
Alors, dans le sol martien, il y a plein de métaux, à peu près tous les métaux qui sont nécessaires à la vie. Seulement, la plupart des organismes ne peuvent pas les extraire directement. Ensuite, il y a du carbone et de l'azote dans l'atmosphère, qui sont deux atomes clés pour les systèmes biologiques. Le problème, c'est qu'ils sont gazeux, ils sont sous une forme que la plupart des organismes ne peuvent pas utiliser, et il y a de l'eau. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une source de ce qu'on appelle des cyanobactéries. Donc c'est des bactéries qui font de la photosynthèse, comme les plantes. Donc elles peuvent fixer le carbone de l'atmosphère en utilisant l'énergie solaire. Elles peuvent aussi fixer l'azote de l'atmosphère. Et elles sont capables d'extraire les métaux des roches. Donc en gros, elles transforment toutes les ressources martiennes qui sont utiles à la vie. Et ensuite, je les utilise pour redonner ces ressources à d'autres organismes. Et donc ensuite, oui, on peut faire pousser des salades.
Bon, tout ça est bien joli, Philippe, mais est-ce que Cyprien Verseux a une chance quand même un jour de partir véritablement pour une mission martienne?
Vu son âge, 25 ans, il a peut-être une chance, mais je parierai pas trop là-dessus. Il y a quand même un obstacle majeur à ce voyage sur Mars, c'est le coût. Le coût, c'est, selon les différents experts, optimistes ou pessimistes, entre 200 et 1500 milliards de dollars ou d'euros, comme vous voulez. Pour mémoire, le voyage sur la Lune, en dollars de 2008, c'était 165 milliards de dollars sur la Lune. C'était quand même un effort, quasi un effort de guerre, puisque à l'époque, c'était la guerre froide. C'était une manière de se taper dessus sans s'envoyer des bombes sur la tête. La motivation, c'était un effort de guerre, une part colossale du PIB américain qui a été investi là-dedans. Mm-hmm. Même avec plusieurs nations, il faut mettre au point les vaisseaux. Il n'y a pas de début de commencement.
Vous
ça prendra
pas.
Au moins 15 ans si on commençait aujourd'hui. Donc je crois qu'il y en a pour un moment.
Bon, il y a toujours une petite guéguerre entre la Russie et les États-Unis maintenant sur Mars. Ça a été le cas avec la Lune.
Oui,
mais bon,
on
sent bien la compétition qui coule.
Il y a une guéguerre d'annonce, mais il n'y a pas d'argent sur la table pour le faire. La motivation manque et les raisons. Mais ça mérite d'être étudié, mais ce serait une autre.
Une autre bonne chance quand même à Cyprien Verseux, Axel.
365 jours, ça va le faire, Cyprien.
Voilà, qui rentre dans son dôme hawaïen. Donc aujourd'hui même, grâce à la NASA, c'est le seul Français qui a été sélectionné pour cette mission. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. À très bientôt. Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, l'extraction de gaz de schiste serait à l'origine d'un séisme de magnitude 4.4 qui a secoué l'Ouest canadien en 2014. Les suspicions du service géologique américain ont été confirmées mercredi par la commission réglementation de l'industrie pétrolière et gazière de Colombie-Britannique. La pratique de la fracturation hydraulique interdite en France consiste à injecter de l'eau dans la roche à haute pression. Elle est par ailleurs critiquée en raison des risques sismiques, donc et de la contamination des nappes phréatiques. Fort heureusement, aucun des deux séismes n'avait causé de dégâts humains ou matériel. Un pavé dans la mare de la psychologie, plus de la moitié des études dans ce domaine ne peuvent pas être reproduites. C'est le résultat trouvé par un collectif de 270 chercheurs. Ils ont tenté de reproduire donc une centaine d'études trouvées dans des revues de psychologie pour voir s'ils obtenaient les mêmes résultats. Ils n'y sont parvenus que dans moins de la moitié des cas. On ne sait pas s'il s'agit de fraude ou de négligence, mais seulement 36% des études présentant des résultats statistiquement significatifs ont réussi donc à être reproduites. Et puis une montagne intrigante sur la planète naine Cérès, c'est ce qu'a découvert Dawn, le satellite d'observation de la NASA. La sonde est passée en orbite à 1470 km d'altitude autour de Cérès le 19 août dernier. Après en avoir fait 14 fois le tour, Dawn révèle aujourd'hui des images très précises, hein, Philippe, d'une montagne pyramidale au flanc très lisse.
Oui, c'est très curieux. On voit des traînées qui vont jusque vers le bas de la montagne, mais qui ne semblent pas entraîner d'accumulation de roches. On ne sait pas si c'est un volcan, si c'est un reste de roches après érosion. C'est totalement mystérieux.
6000 mètres d'altitude, quand même, pour cette montagne non plus haute que le Mont Blanc. L'image est à retrouver sur le Facebook de la Tête au Carré et sur notre compte Twitter. Le club dans un instant.
Black and white, measuring.
Miles Kane Rearrange sur France Inter et dans le club de la tête au carré cet après-midi. Le calvaire des poussins, vaccin universel contre la grippe, la sixième extinction des espèces et des dictons à foison, animaux et météo. Vers la fin du calvaire pour les poussins mâles, peut-être. Hein. C'est un petit peu tôt peut-être pour le dire. En tout cas, Brigitte Gauthier, vous êtes la porte-parole de l'association L214. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Ça correspond à quoi?
L214, c'est l'article du Code rural, le L214-1, qui reconnaît pour la première fois en 1976 le fait que les animaux soient des êtres sensibles. Oui. Et c'est là-dessus qu'on base nos actions.
Association d'éthique de protection animale, hein, créée en 2008. Et donc, vous dénoncez entre autres les pratiques utilisées sur les animaux qui servent à la production alimentaire et des actions qui se concentrent sur les animaux de ferme. Hein. Votre association, donc, avec ces actions, des enquêtes dans les élevages qui ont révélé le calvaire des poussins mâles qui sont traités comme des déchets, des images qui ont fait le tour de la toile, qui ont beaucoup choqué. Et vous aviez rendez-vous hier au ministère de l'Agriculture pour en parler, avec l'appui de 42 parlementaires, c'est pas si mal. Quel est le sort de ces poussins donc, que vous avez révélé dans une vidéo filmée en caméra cachée?
Donc ce sont les poussins qui sont issus de l'industrie de l'œuf. Pour produire des œufs, on a besoin de poules pondeuses. Et ce sont des souches qui sont sélectionnées. Les poussins mâles qui, eux, ne pondent pas d'œufs sont
systématiquement jetés.
Voilà, sont inutiles pour cette filière-là.
Ouais. Broyés vivants, gazés, étouffés dans les sacs poubelles.
Voilà, au choix du calvaire, on vous propose entre la peste et le choléra au niveau des poussins, donc tout juste nés, tout juste éclos, et puis déjà considérés comme inutiles, donc qui finissent par différentes méthodes qui sont
certaines
plus
sont
ou moins
autorisées
terribles.
Ou pas?
Alors, le broyage est autorisé, le gazage est autorisé.
C'est vivant, donc le broyage vivant.
Broyage vivant, alors c'est procédé mécanique avec mort immédiate, et effectivement c'est autorisé par le règlement sur les mises à mort des animaux.
Ouais, 42 parlementaires de tous bords donc vous ont soutenu.
De tous bords, oui.
Sur cette question. Et une pétition qui a été signée par combien de personnes jusqu'à maintenant?
Presque 120 000 aujourd'hui.
Ce qui n'est pas si mal. Hein.
Ce qui n'est pas si mal, non. Ça veut dire vraiment qu'il y a eu une mobilisation de l'opinion publique d'un côté et puis une prise de conscience aussi de parlementaires sur cette question. Pour essayer justement de faire évoluer un petit peu nos pratiques qui, là on est sur le broyage des poussins, mais il y a énormément de pratiques qui aujourd'hui révoltent les gens qui sont pourtant encore pratiquées, qu'on pourrait faire évoluer de la même façon.
Et dont vous faites l'écho régulièrement sur votre site internet. Il faut s'accrocher quand même pour regarder les vidéos que vous mettez en ligne régulièrement.
Complètement, oui, mais enfin voilà,
c'est volontaire de votre part de montrer des images.
Non, pas du tout. Moi, je préférerais montrer des oiseaux qui chantent, des petits lapins dans les terriers, etc. Sauf qu'on veut montrer la réalité de ce qui se passe dans les élevages, dans les transports, pendant les abattages ou même sur les bateaux de pêche. Et que cette réalité, elle a rien de bucolique. C'est vraiment, on se comporte vraiment avec les animaux de façon inhumaine, mais en fait complètement humaine, et on devrait remettre en cause toutes nos pratiques qui utilisent, qui exploitent aujourd'hui les animaux.
Alors votre rendez-vous hier au ministère, c'est pas le ministre de l'Agriculture qui vous a reçu?
Non, il est réservé à la FNSEA, lui.
Voilà, alors comment ça s'est passé? Qui vous a reçu exactement? Le directeur du bureau de la protection animale, c'est
voilà,
ça?
Voilà, directeur du bureau de la protection animale et le sous-directeur du bureau de la santé animale et de la protection animale, et puis aussi deux autres personnes.
Bien sûr, écoutez attentivement.
Attentivement, on a pu bien discuter avec eux, on a proposé des pistes, ils avaient déjà avant de certaines d'entre elles.
Quelles sont-elles, ces pistes?
Alors, il y a
des alternatives, évidemment.
Alors, c'est des alternatives au broyage, donc c'est des bouts de sparadrap sur une industrie quand même qui est juste énorme. Il y a notamment la plus prometteuse, celle qui semble, qui est discutée aujourd'hui en Allemagne, c'est sur la spectrométrie à 3 jours, c'est-à-dire que vous faites une sorte de scannage de l'œuf,
vous repérez.
Et puis vous pouvez savoir si c'est mâle ou femelle, et du coup, là, vous allez détruire des œufs.
Casser les œufs.
Voilà, faire de l'omelette, et non pas détruire des vies déjà sensibles d'animaux. Quoi.
Ça, c'est vraiment l'alternative qui vous semble la plus intéressante, elle est déjà
alors,
testée ou pas?
Alors, c'est celle qui est plausible, elle est... En Allemagne, le prototype devrait sortir cette année et déployé 2016 et peut-être avec une obligation, enfin interdiction en tout cas du broyage et du gazage à partir de 2017.
Tout ça coûte très cher évidemment, j'imagine.
Évidemment.
Ouais. Vous avez des professionnels de la filière quand même qui sont sensibles à cet état de fait ou pas?
Alors on l'a appris hier justement, les personnes qui nous ont reçues nous ont dit que la filière avait bien pris conscience de ça et qu'ils essayaient de travailler là-dessus.
Bon, donc il y a encore du travail. Mais
il y a encore énormément de travail.
Une sensibilisation réelle en tout cas.
Alors une sensibilisation réelle, dans d'autres pays il y a d'autres choses qui se sont développées, il y a notamment les souches mixtes, c'est-à-dire qu'ils utiliseraient aussi les mâles pour faire de la chair. Et puis dans d'autres pays, enfin, ou pour des sociétés, c'est à la fois développer l'alternative au broyage et de l'autre proposer des alternatives carrément aux œufs, c'est-à-dire faire baisser la consommation d'œufs.
Que pensez-vous des provocations de l'association PETA, demande Christophe sur Twitter. PETA, c'est eux qui avaient, par exemple, fait ces clips avec des fourrures maculées de sang.
Heureusement que, enfin voilà, la provocation ça marche puisque on parle d'eux et du coup en parlant d'eux, on parle aussi de la question animale, du fait de plus les manger, etc. Donc c'est effectivement par la provocation que on peut réussir à arriver dans les médias finalement.
François Lasserre, en tant que naturaliste, entomologiste, ces questions animales vous intéressent ?
Particulièrement dans ma famille, sur quatre, on est deux végétariens, donc on a réglé
pour
le problème.
Pour ces raisons-là ?
Pour ces raisons-là, entre autres, évidemment, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. La viande aujourd'hui, c'est un truc de fou, comme disent les jeunes. Et quand vous parliez de films affreux, en fait, j'assimile pas mal le fait de devenir végétarien au fait d'enlever ses œillères, tout simplement. Tout le monde le sait, mais personne ne veut en entendre parler. Donc, je trouve qu'être végétarien, c'est juste enlever ses œillères. Aujourd'hui, objectivement, dans une balance, manger de la viande, c'est impossible. Si on aime la nature, l'environnement, les animaux, l'éthique, tout ce qu'on veut, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Donc maintenant, il n'y a pas d'autre alternative que d'être végétarien, donc on a pris cette option. Et j'en parlais avec Brigitte, j'ai un fils qui est assez jeune, qui a 13 ans, qui est végétarien, je suis végétarien aussi, donc c'est ni viande ni poisson évidemment. Et rien que le fait d'être végétarien, ça soulève un nombre de questions incalculables pendant les dîners, etc. Et le fait d'incarner ça a déjà une puissance énorme.
Brigitte Gauthier, donc association L214.com, hein, c'est votre site internet pour ceux qui souhaitent vous soutenir.
Exactement, pour nous soutenir, pour parler des animaux et voir les alternatives, le régime végétarien ou végétalien pour aller encore plus loin.
Bonne chance dans la suite de votre combat.
Merci.
La tête au carré. Le club.
Allez, vous restez avec nous quand même, parce qu'on a parlé des petites souris hein, qui servent évidemment beaucoup à l'expérimentation animale et quand même pour la bonne cause, parce qu'on est sur des pistes aussi parfois intéressantes, même si des alternatives existent. On en a parlé largement dans l'émission. Les chercheurs sont-ils en train de trouver un vaccin universel contre toute forme de grippe, Bruno Lina? Vous êtes professeur de virologie à Claude Bernard Lyon 1, directeur du Centre français de référence contre la grippe. Alors, il y a deux études scientifiques publiées en début de semaine dans Nature et Science qui mettent en avant donc un nouveau concept de vaccin qui permettrait une protection beaucoup plus efficace que les traitements actuels. Qu'est-ce qui d'abord caractérise le virus de la grippe, Bruno Lina ?
Le virus de la grippe, il a plusieurs caractéristiques qui sont embêtantes du point de vue de la vaccination. Premièrement, c'est que des virus, il en existe beaucoup. Il existe 16 sous-types d'hémagglutinine qui sont finalement 16 virus de la grippe différents, combinés avec 9 sous-types de neuramidase. Donc vous avez 144 virus dans la nature qui sont totalement différents. Et parmi ces virus, à l'intérieur de cette population de virus, chaque sous-groupe est capable d'évoluer pour lui-même. Et quand on regarde finalement par le petit œil de la lorgnette de la grippe humaine, on se rend compte de cette difficulté parce que, par exemple, comme l'année dernière, un des virus de la grippe avait évolué, il avait muté, et donc nos vaccins ne suivent plus. On court toujours derrière les virus pour essayer de développer des vaccins qui soient protecteurs et efficaces.
Voilà, virus qui varie justement énormément, c'est une de ses caractéristiques.
Il mute tout le temps, c'est une des caractéristiques vraiment de ce virus, et comme d'autres virus ARN, mais lui, fait partie des champions avec le VIH.
Alors, quelle est la nouveauté dans ces recherches, Bruno Lina, exactement, qu'on comprenne bien l'intérêt de ce vaccin universel ?
Alors, ce vaccin, sur le concept, il faut comprendre comment est-ce qu'on a eu l'idée de fabriquer ce vaccin. Le virus change tout le temps. En fait, ce qui change dans le virus, c'est une protéine qui se trouve à la surface du virus, qui est la protéine la plus importante de ce virus, qui est celui qui est ciblé par notre réponse immunitaire. C'est quand on a fabriqué des anticorps contre cette protéine qu'on est protégé contre le virus, et c'est parce qu'on fabrique ces anticorps qu'on guérit de l'infection virale. Cette protéine, qui s'appelle l'hémagglutinine, elle comporte deux parties. Une partie globulaire et une partie qui ressemble à une tige. En fait, la partie globulaire est portée par la tige. La partie globulaire, c'est celle qui est reconnue essentiellement par notre système immunitaire et c'est celle qui varie le plus. Inversement, la tige qui est plus près de la surface du virus est très mal vue par notre système immunitaire parce que il faut se représenter ces hémagglutinines comme une forêt d'arbres présente à la surface du virus. Donc de l'extérieur, quelqu'un qui survole voit les parties globulaires mais voit pas la tige. Or, cette tige, à la différence de la partie globulaire, à des régions qui sont très conservées et qui sont très stables, c'est-à-dire qui ne mutent pas dans les différents sous-types de virus influenza et à l'intérieur de ces mêmes sous-types. Donc, une fois qu'on a fait cette constatation, on s'est dit, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer, on va d'abord voir si on peut fabriquer des anticorps qui sont dirigés contre la partie stable de la tige et qui, éventuellement, pourraient protéger de l'infection. Ça, c'est un travail qui a commencé il y a 3-4 ans déjà, et on a pu démontrer, effectivement, qu'on avait une région très stable et une région immunogène, et quand on administrait des anticorps au cours d'une infection qui ciblait cette région, eh bien, on protégeait contre la maladie, et pas seulement contre le virus vis-à-vis duquel on avait développé ce produit, mais contre toute une série de virus, H1, H2, H3, etc. Donc, il fallait passer l'étape supérieure qui était de dire, on sait fabriquer des anticorps monoclonaux. Maintenant, si on prend cette petite partie de protéines, qu'on la transforme en vaccin et qu'on administre ce vaccin à un modèle d'étude, est-ce que ça va être capable d'induire une protection? Et c'est ça qui vient d'être fait, au bout du compte. C'est de transformer ce concept en un vaccin. Alors, on est toujours dans la notion de concept. Mais on a réussi à vacciner des souris avec cette petite partie de protéines stable et qui a été développée à partir du virus H1N1. Et on a ensuite vacciné ces souris et infecté ces souris avec du virus H5N1, qui est un virus qui est particulièrement virulent. Et on a vu que toutes les souris étaient protégées par ce vaccin.
Sauf que les souris ont un système immunitaire qui est très différent du nôtre, quand même, Renolina.
Exactement. C'est juste la nuance qui est très importante, et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que si ça n'avait pas marché chez la souris, c'était pas la peine de continuer. C'est une espèce de feu vert pour aller au-delà. En revanche, c'est pas parce que ça marche sur la souris que ça va marcher chez l'homme. Mais c'est donc une étape indispensable à faire, mais ça n'est pas suffisant pour pouvoir transposer ce résultat maintenant à l'homme.
Un des grands avantages, en tout cas, si ça fonctionne, il faudra beaucoup de temps évidemment, c'est qu'une seule vaccination suffirait, c'est ça, pour notre système immunitaire?
Absolument. Alors, on parle des virus de type A. Malheureusement, on est aussi infecté par les virus de type B, donc il faudra qu'on suive le même chemin pour les virus de type B. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces virus de type A, comme vous le savez, on en a, c'est ceux qui donnent les épidémies les plus importantes. Il y en a dans le réservoir animal, c'est ceux qui éventuellement peuvent franchir la barrière, comme on a observé en 1918, en 1968, en 1957 et en 2009, pour donner des pandémies. Là, avec ce vaccin, on se protégerait contre tous ces virus. Et on n'aurait pas besoin, en plus, pour la vaccination contre la grippe saisonnière, de se revacciner chaque année. On serait protégé plusieurs années.
Mais c'est pas pour tout de suite. Brigitte Gauthier, une réaction très vite pour terminer.
Autour des souris, est-ce que sur des volontaires, ce serait quand même pas mieux? Et en plus, volontaires humains, bien sûr. Et est-ce que si on s'interdit après en disant ça marche pas sur les souris, donc ça va pas marcher, on s'est pas interdit un certain nombre de pistes? Il me semble que sur un chien, on avait essayé l'aspirine, je dis peut-être des bêtises, mais il y avait une molécule qu'on avait essayée sur les chiens, ça ne marchait pas sur les chiens. Si on s'était interdit de l'essayer sur les humains.
Alors Brunolina, éthiquement c'est possible ou pas?
On n'est pas sur une approche de médicament. L'approche de médicament suppose toute une biologie derrière, et c'est vrai que si vous donnez par exemple du doliprane à un chien ou à un chat, il en meurt. Donc, on est vraiment sur l'étude de la réponse immunitaire. Le système immunitaire des souris n'est pas le même que le système immunitaire humain en termes de protection, mais il y a quand même tout un volet d'études que l'on peut faire de façon robuste en prenant ce petit modèle animal pour essayer de débroussailler un petit peu. On n'a aujourd'hui pas d'expérience ayant pu montrer qu'on avait un système qui ne marchait pas chez la souris et qui marchait chez l'homme.
Merci Bruno Lina, en tout cas pour vos explications depuis Lyon. Merci à vous. Allez, dans un instant, un entretien avec la journaliste américaine Elisabeth Colbert qui publie La sixième extinction, comment l'homme détruit la vie, prix Pulitzer 2015 de l'essai.
Ce soir, nous nous battons pour rien, rien d'autre que pour nos poings. On pisse ensemble sur les trottoirs, où nous irons tomber plus tard. Je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos.
Je veux sentir tes os, ta mère sur le front. Nous ne buvons jamais avant midi. Dans nos sacs les walkie-talkie, tu abordes ton père dans son lit. Je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Le contact de ta peau. Fréquence des walkie-talkie, on se suit, on se suit. Ce soir, nous nous battons pour rien, rien d'autre que pour nos poings. Les coups qu'on prend, on les rendra. On les rendra. Je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Le contact de ta porte sur mon dos. Sur mon dos, je peux sentir tes os.
La sixième extinction ou comment l'homme détruit la vie. C'est un livre événement qui sort en France aux éditions de la librairie Vuber et qui est signé par la journaliste scientifique américaine Elizabeth Colbert, spécialiste des questions liées à l'environnement pour le New Yorker. Son ouvrage a reçu en avril dernier le prix Pulitzer de l'essai. Elizabeth Colbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui l'invité du club de la tête au carré. Ravi de vous accueillir cet après-midi. La Terre, donc, a connu depuis sa formation de très nombreux bouleversements et les géologues évoquent en particulier 5 extinctions de masse, dont la plus célèbre a vu la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et vous, ce qui vous intéresse, Elizabeth Colbert, c'est la sixième extinction. Une période très singulière puisque pour la première fois, ce sont les activités humaines qui en sont à l'origine. À quel moment démarre cette période particulière?
Well, that's a subject of a, you know, very active debate right now. There's this real question.
Ce sujet est un sujet de débat assez vif à l'heure actuelle, à savoir si nous entrons effectivement dans une période, une nouvelle période géologique. Il n'y a pas vraiment un nom, mais il y a un nom qui a été choisi, qui s'appelle l'Anthropocène. Et lorsque l'on y réfléchit, on se rend compte que ça a commencé il y a pas mal de temps, puisque nous avons commencé à tuer des animaux d'une façon un peu plus violente en Europe. Ou dès que les premiers Européens sont rendus sur le Nouveau Monde, il y a eu donc une façon beaucoup plus systématique et il y a des espèces qui ne s'étaient pas rencontrées pendant des millions d'années. On ne sait pas très bien, on ne pourrait pas dater vraiment le commencement exact. Et le débat est très vif entre scientifiques pour déterminer la date exacte.
Certains, très récemment, ont proposé les essais nucléaires comme pouvant être justement le démarrage de l'Anthropocène. Ça vous paraît intéressant, cette proposition?
Well, in terms of being a geological marker that will be.
Si on parle de marqueurs géologiques, c'est-à-dire des strates ou des éléments précis, c'est vrai que ce serait un élément extrêmement positif et un bon candidat, parce que c'est vrai que c'est un moment où on peut voir où il y a eu des changements dans les années 50, 60, où il y a eu ces essais nucléaires, il y a eu cette activité nucléaire, et il y a eu des isotopes qu'on a pu retrouver un peu partout. Et c'est vrai qu'ils laissent une trace très, très, très longtemps. Et ils ont, alors ils restent non seulement très longtemps, ils restent permanente dans l'atmosphère ou dans les strates.
Alors justement, ce mot anthropocène désigne l'époque géologique actuelle, dominée par l'homme, proposée par Paul Crutzen. Et qu'est-ce qu'il avance pour justifier justement sa théorie autour des activités humaines? Qu'est-ce qui justifie l'anthropocène?
Well, Paul Crutzen's point when he came up with this word,
quand il a trouvé ce mot, Paul Crutzen, avait comme volonté d'expliquer que l'humanité en fait remplaçait ces éléments importants de la nature qui ont modifié par le passé la Terre telle que nous la connaissons. C'est un processus qui a été très graduel, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord les volcans, d'autres éléments qui ont modifié, qui ont changé la Terre. Mais nous, nous changeons le monde à cette échelle géologique, nous changeons l'atmosphère avec les combustibles fossiles, mais également la façon dont nous menons à bien notre agriculture, la façon dont nous élevons le bétail. Tous ces éléments modifient en fait de manière définitive non seulement l'atmosphère, mais aussi la Terre et tous les éléments géologiques qui la composent. Et c'est vrai que nous modifions également les espèces dans le monde entier. Un exemple, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui existaient en Europe, et bien on peut les retrouver en Australie, on peut les retrouver en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde, à cause des déplacements des êtres humains.
Alors justement, Elisabeth Colbert, vous avez fait le tour de la planète à la recherche des traces de cette sixième extinction, et c'est donc l'occasion pour vous de retracer le destin de plusieurs espèces. Comment est-ce que vous avez fait le choix de ces espèces et des pays où vous vous êtes rendu?
Well, I chose them basically for a lot of reasons, and as I say in the book,
les raisons en sont assez nombreuses. Et comme je le dis dans le livre, j'aurais pu aller un peu partout, partout sur la planète, et j'aurais pu constater ces différents changements. Et certains de ces changements que j'ai pu constater sont certains que j'ai pu trouver très proche de l'endroit où j'habite, d'ailleurs. Mais j'ai décidé de me rendre sur des lieux où il y avait des recherches qui étaient en cours et où des choses extrêmement intéressantes avaient lieu. Et vraiment, le plus bel endroit, le plus fascinant de tous, c'est la Grande Barrière de Corail. Comme vous savez, sur ce lieu, c'est vrai que tout le monde dans ce type de lieu recherche sur ce que l'on appelle l'acidification des océans et la façon dont on est en train de modifier la chimie même dans laquelle sont composés les océans, qui rendent d'autant plus difficile pour les espèces et également pour le corail de survivre et de se développer. Donc tout ce récif de corail est très en danger, et tous les récifs, non seulement celui de la Grande Barrière d'ailleurs, hein. Et quand je dis qu'ils sont en danger, ça va d'autant plus loin qu'ils se désintègrent. Et si l'on continue sur cette voie, sur ce chemin, à la fin du siècle, il n'y aura plus de corail vivant.
Pourquoi vous intéressez aux grenouilles dorées du Panama, par exemple ?
Well, that is a part of this whole broader phenomenon, which is
Alors cela rentre dans ce phénomène beaucoup plus large qu'on appelle la crise des amphibiens, dont la cause est due
à
un champignon en fait, à une maladie qui vient d'un champignon. Alors on ne sait pas comment il s'est répandu dans le monde, on ne sait pas comment il a atterri en Amérique du Sud, on le trouve en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Australie, et il a tué de magnifiques espèces d'amphibiens et de très intéressantes aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu comment cette maladie est apparue. Ils ont essayé d'arrêter le processus, notamment au Panama, en prenant en fait ces différentes grenouilles, en les mettant dans des refuges, alors que de la forêt tropicale amazonienne. Et finalement, ils ont pu en sauver quelques-unes, mais la grande majorité a disparu. Il n'y a rien à faire.
Voilà. Donc les grenouilles, entre autres, qui sont des témoins très intéressants de l'état de la biodiversité aujourd'hui. Le grand pingouin au large de Terre-Neuve vous a également intéressé.
L'histoire du grand pingouin, à mon sens, est très intéressante. Parce que là, on a pu voir tous les éléments, tous les différents passages. On voit le processus dans sa totalité. Il y a à peu près une centaine d'années, on s'est rendu compte à quel point cette espèce était en danger. C'était un des quelques oiseaux sans ailes, et qui existaient dans cette zone du nord de l'Europe, du nord de nos pays. Donc il y en avait au Canada, il y en avait en Islande, même un petit peu plus bas, dans l'Atlantique. Et petit à petit, en fait, cette espèce a été décimée par l'homme qui l'a tuée pour la manger.
By the end of its days, it was reduced to this.
À la fin de, à la toute fin, il n'y avait plus qu'une paire, en fait, une paire de ces pingouins d'une petite île. Et les gens voulaient simplement en avoir pour pouvoir avoir, les avoir dans leur collection, alors qu'ils étaient en voie d'extinction. Et la dernière paire, donc le dernier couple, a été tué, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont allés chercher ce dernier couple sur une petite île d'Islande.
And interestingly, one of the people who recorded this history.
Très intéressant, c'est qu'une des personnes qui raconte cette histoire est devenue un ami de Charles Darwin. Et c'est pourquoi qu'on peut réunir et on peut faire un parallèle entre ces deux histoires.
Elisabeth Colbert, vous allez rejoindre dans quelques minutes l'aéroport Charles de Gaulle pour reprendre l'avion vers New York. Et sur votre route, eh bien, vous verrez la ville du Bourget qui se trouve à mi-chemin entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Et c'est là-bas que va se dérouler la COP21 en décembre prochain, cette conférence sur le climat avec un enjeu de taille, celui d'aboutir à un accord universel et contraignant pour lutter justement contre le réchauffement climatique. Et on attend évidemment des positions très particulières des États-Unis.
Well, we know the position of the United States.
Nous connaissons très bien la position qui est celle des États-Unis. À l'heure actuelle, nous rentrons dans une période d'engagement, de compromis, et c'est vrai que cela a bien commencé et que ça va peut-être aboutir au moment où la conférence aura lieu. C'est vrai qu'ils vont venir. C'est comme si vous veniez à un dîner et on vous propose d'apporter une assiette ou un plat. Vous voyez, donc on sait très bien ce que vont apporter les Américains. La question qui reste en suspens, c'est de savoir est-ce que le plat va être un plat qui correspond à ce qu'on attend ou est-ce qu'il sera bon. Et je crois que c'est un peu de savoir si les décisions qui vont être prises seront suffisantes. À peu près, il faudrait en fait de 26 ou 28% de réduction de ce qui est émis. Alors c'est ce que Obama a promis, 26-28%, on verra.
Est-ce qu'aujourd'hui en 2015, les Américains sont toujours aussi divisés sur la question du réchauffement climatique, Elisabeth Colbert?
If you look at polling, you know, I think that opinion has shifted somewhat.
Si vous regardez maintenant un peu les sondages qui ont pu être menés, effectivement, les idées changent, les Américains ont changé, mais c'est vrai qu'ils s'en préoccupent plus. Mais tout ce qui tourne autour, tout ce qui est politique, c'est-à-dire tout ce qui est législatif, toutes les décisions qu'il faudrait prendre, il y a toujours donc un groupe au Congrès, un groupe à la Maison-Blanche. Et je crois qu'au final, si on regarde les choses n'ont pas tellement bougé.
Bon, ben on espère qu'un livre comme le vôtre, qui a reçu donc le prix Pulitzer de l'essai en avril dernier, pourra contribuer en tout cas à un changement des mentalités, en tout cas faire peut-être bouger un petit peu les lignes. Ça s'appelle « La sixième extinction, comment l'homme détruit la vie » à la librairie Vuibert. Et donc, ce livre paraît en France. Elisabeth Colbert, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Vous êtes l'une des grandes figures du journalisme scientifique américain.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et merci à Paloma Goulmo qui était avec nous pour la traduction.
La tête au carré. Le club.
Et la dernière partie de notre club dans un instant avec notre invité, l'entomologiste François Lasserre pour des dictons animaliers et météorologiques. For the Kill, Shamir, à l'instant, dans notre club des têtes au carré. François Lasserre, araignée du soir, espoir, chez De La Chaux et Nestlé. Dédicton, animalier incertain, c'est le sous-titre de votre livre avec Ronan Badel, qui est illustrateur. Brigitte Gauthier de l'association L214 est toujours avec nous. Elle avait d'ailleurs une question très pertinente à vous poser.
Eh bien, voilà, on entend beaucoup, il y a beaucoup de débats autour de la sensibilité. Est-ce que, aujourd'hui, il y a un consensus sur la sensibilité ou non des insectes ou...
Voilà. Vous qui êtes entomologiste, hein, donc spécialiste des insectes.
Ça dépend des personnes. Les personnes un peu old school vous diront que absolument non. Et puis les jeunes commencent à dire bah non, il n'y a pas de raison. Alors c'est sûr que le système nerveux est moins développé que le nôtre. Il n'y a pas un énorme cerveau comme le nôtre. Et le système nerveux est beaucoup plus réparti. Donc voilà, c'est une question qui n'aura jamais de réponse à mon avis.
C'est dommage, hein.
Oui.
Parce qu'arracher les ailes des mouches, par exemple, beaucoup d'enfants l'ont fait dans le, hein, mais on pourrait au moins avoir des informations là-dessus, mais on n'en a pas. On ne sait pas si la mouche ressent beaucoup de douleur.
Elle la ressent, maintenant, de là, est-ce que, dans quels critères éthiques ça rentre de notre côté, c'est très compliqué, mais évidemment, elle ressent les choses.
Les dictons persistent toujours dans le langage courant, François Lasserre, hein, ou c'est quand même un peu old school, justement, pour reprendre vos termes.
Tous ceux que j'ai trouvés, en tout cas, qui concernent les animaux, les animaux sont quand même plutôt old school, comme vous dites.
Qu'est-ce qui vous a amusé alors dans ce travail ?
C'est surtout que je cherche avant tout à parler de nature et à remettre un peu de bienveillance vis-à-vis des êtres vivants. Donc du coup, je vais chercher des pistes pour en parler. Et le succès de mon précédent livre qui s'appelle « Comme vache qui pisse » était tel que je me suis dit il faudrait que je retourne sur les pas de la culture et de la langue. Parce que quand on reste dans le rayon nature, on est un peu bloqué dans la biodiversité. Il n'y a pas beaucoup de place pour ça, alors que si on rentre sur le domaine de la culture, ça marche un peu mieux. Donc du coup, ce qui m'amusait avant tout, c'est de dire, vous voyez, même dans la langue, les animaux sont utilisés, nous ont servi et nous servent encore.
Oui. Il n'y a pas de dicton sur les poussins, hein, d'ailleurs, pour Brigitte Gauthier. Il y en a sur les poules.
Non, il y en a sur les coqs, les poules, mais il n'y en a pas sur les poussins. Je n'en ai pas trouvé.
Alors, sur les poules, justement, j'en avais noté un ou deux. Vous en avez en tête, François Lasserre ou
pas? Le coq, si le coq chante, il va pleuvoir. Alors ça fait partie des dictons qui sont totalement incertains.
Oui. Et pas terrible d'ailleurs, hein. Si le coq chante qu'il va pleuvoir, bon.
Oui, alors il y en a des mieux et des beaucoup plus drôles. Tous ceux qui concernent le chant du coq sont vraiment incertains parce que a priori c'est plutôt séduction, marquage du territoire et c'est pas pour annoncer la pluie ou le beau temps.
Alors justement la pluie, le climat au fond, hein. Vous pouvez aller leur présenter votre livre à la COP21. Là. Il y a beaucoup de choses pour eux. Hein.
C'était une des motivations aussi de ce livre, c'est de se détendre un peu parce que c'est vrai que cette COP21 nous plombe un peu l'ambiance et je me suis dit détendons-nous un peu du climat et c'est vrai que les dictons, il y en a beaucoup qui tournent autour de la météo parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de satellite, pas d'appli météo, donc ils n'avaient que leur environnement pour imaginer la météo et surtout les animaux.
Et il y a beaucoup de choses autour des oiseaux, hein, en particulier quand
beaucoup
même.
Beaucoup d'oiseaux, c'est les animaux qu'on va remarquer facilement, c'est-à-dire il y en a plein qui sont très proches de nous, on les voit même plus facilement que les mammifères, et donc il y en a plein. Alors il y en a qui sont complètement évidents, comme par exemple buse planant beau temps, tout le monde sait que les grands rapaces se servent des thermiques pour monter ou pour migrer ou pour se déplacer. Et donc, évidemment, quand il fait chaud et quand il fait beau, on voit des buses ou des aigles planer.
Alors, quel est le fond scientifique, justement, de la plupart de ces dictons? Ils sont vraiment inspirés par des observations naturalistes ou pas?
Mais en fait, il y en a très peu, finalement. Et à chaque fois que j'en ai parlé avec des naturalistes, ils prennent ça très à la légère, en disant, tout ça, c'est un peu des trucs de grand-mère, disons, des superstitions. Donc, j'ai quand même un peu creusé. Il y en a deux qui ont été au moins prouvés scientifiquement. C'est la grenouille qui monte et qui descend dans son aquarium, par exemple. dit quand elle est en haut, il va faire beau quand elle est en
c'est
bas.
C'est le baromètre.
Bon, ça a été, voilà, le baromètre de la grenouille, ça a été prouvé, c'est archi faux. Celui qui concerne le fait que lorsqu'il fait doux à Noël, il va faire très froid à Pâques.
Oui.
Donc on connaît Noël au balcon, Pâques au tison,
mais il y
en
a une autre version. Oui.
Il y a une autre version qui est à Noël les moucherons, à Pâques les glaçons.
Voilà.
Donc il y en a d'autres comme ça, et ça, il y a quelqu'un qui s'y attelé une fois, qui
c'est
s'est
ça.
Attelé, qui a vraiment pris des statistiques sur le siècle dernier, et c'est archi faux.
Bon, d'accord. Et les vrais, alors, il y en a quand même ou pas?
Alors, il y en a quand même certains qui sont vrais, c'est beaucoup ceux qui parlent de l'arrivée ou du départ des oiseaux. Effectivement, on le sait tous, les oiseaux, une grande partie des oiseaux migrent.
Mmh.
Et donc, quand certains oiseaux arrivent, on le sait, alors il y en a un qui concerne par exemple le coucou, à la Saint-Jean, qui est à peu près qui est le 24 juin, le coucou perd son chant. Alors ça, c'est évident, on le sait, le coucou, le 24 juin, il a terminé tout le travail,
oui.
Il a marqué son territoire, séduire une femelle, etc.
Mm-hmm.
Et il va même commencer à repartir en Afrique, parce que c'est un migrateur total. Et du coup, effectivement, à la Saint-Jean, on n'entend plus le coucou, et on l'a tous constaté. Un autre qui est peut-être proche du milieu de la chasse, parce que évidemment, les dictons étaient proches de la nature, et des gens qui sont...
Bouchez vos oreilles, hein, Brigitte Gauthier,
ouais.
On va parler de chasse, ça
alors,
va faire
non,
du mal.
C'est un léger... À la Saint-Rémy, la bécasse est au pays, par exemple. Effectivement, la Saint-Rémy, c'est à l'automne.
Oui.
Et les bécasses, des populations du Nord, viennent augmenter les populations françaises.
Qu'est-ce que les virelangues, François Lasserre? Je ne connaissais pas ce mot.
Alors, les virelangues, c'est des phrases qui, lorsqu'elles sont prononcées assez rapidement, vous font croire qu'elles sont dites dans une autre langue. Alors là, vous allez me poser la question.
Non, on va écouter un extrait.
Ah tiens, bon, pardon.
Je vais vous donner un peu de respiration. On va écouter un virelangue chanté, justement.
La binicho, aloa nijba, me ouli bouniche, me ouli bouniche, le gène nicho chaud, le manchon nicho froid, me ouli bouniche, chouette question que voilà. Me ouli bouniche, me ouli bouniche. Mais où les bouniches, chouette question que voilà.
Voilà, et ça n'est pas du russe, hein. C'est
non.
Bien du français.
Exactement, ça parle du fait que certains oiseaux nichent haut ou bas, mais
où le hibou niche.
Voilà. Mais où l'hibou niche-t-il? Et vraiment, on a l'impression que je parle une autre langue.
C'est ça, exactement. Et ça s'appelle le virelangue. Allez, une dernière expression. Tu n'as pas vu péter le loup sur la pierre du bois. Qu'est-ce que c'est que ce dicton étrange?
Alors là, on est plus proche du proverbe. Ça veut un peu dire, écoute, t'es vraiment qu'un bleu, parce que si t'as pas entendu péter un loup, c'est que vraiment t'es pas encore tout à fait un homme. Et j'ai mis pas mal d'expressions à partir du loup, parce que on a l'impression que c'est des choses un peu désuètes, mais comme le loup est en train de revenir doucement, effectivement, bientôt, peut-être qu'on réentendra le loup péter sur la pierre du bois.
Qui sait ? Araignée du soir, espoir, autre dicton animalier incertain, de la Chaux et Nessé publie donc cet ouvrage avec les illustrations de Ronan Badel, et on va l'offrir immédiatement à notre amie Brigitte de l'association L214. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux.
Merci.
Une nouveauté, cette année, c'est le best-of de la Tête au Carré, qui a retrouvé en podcast avec les invités de la semaine qui vous résument tous les sujets dont nous vous avons parlé cette semaine. Vous retrouvez donc ce module concocté pour vous par Stéphanie Texier sur franceinter.fr à la page des podcasts de La Tête au Carré. Et c'est donc des extraits courts pour vous donner envie d'aller plus loin et de retrouver l'ensemble de nos dossiers. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir.